à avoir un peu froid en venant par ici parce que j'arrive du Togo. J'étais il y a deux semaines, un peu plus de deux semaines au Togo. Ma dernière adresse, c'était Lomé, au Togo, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu là-bas, où je suis donc missionnaire avec les Assemblées de Pentecôte du Canada. Depuis 2009, je vais régulièrement au Togo, en Afrique, pour enseigner. Pas seulement le Togo, c'est ces deux dernières années, je suis allé au Bénin, je suis allé au Gabon, je suis allé en République démocratique du Congo, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Burkina Faso, donc toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est bon de voir des frères et sœurs qui ont soif de Dieu, il y a de belles églises. J'étais dans un camp de prière il n'y a pas longtemps, 10 000 personnes étaient là. Ils avaient soif de Dieu. Venir jeûner et prier, passer la nuit en prière, s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'ils reçoivent de Dieu. Et on voit des miracles, des guérisons instantanées, des délivrances, de belles choses se produire. Et c'était bon de pouvoir apporter la parole dans ce contexte-là. Et c'était pourtant dans un lieu désert, en pleine brousse. C'était pas en ville, c'était pas là où il y a du monde. C'était dans un lieu où normalement il n'y a personne. Mais les gens viennent. Et ça m'a fait penser à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Nous, aujourd'hui, si on veut prêcher à du monde, on va là où les gens sont. Mais Jean-Baptiste, lui, il va là où il n'y a personne, et c'est les gens qui viennent à lui. Ce n'est pas le prédicateur qui va là où il y a les gens, mais c'est les gens qui se disent, là, il y a un message de bon, il faut qu'on aille entendre ça. Et je prie pour qu'on puisse voir cela au Canada prochainement, dans cette province, dans les provinces d'à côté aussi, que les hommes et les femmes aient soif d'entendre la parole de Dieu et qu'ils n'aient pas peur de faire quelques kilomètres, d'aller même dans un lieu désert et de dire là, on sait qu'il y a quelque chose de bon. On sait que là, le Seigneur est là, que la parole est vraie, qu'elle sonne juste et que c'est une parole puissante et que Dieu agit avec force et puissance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi le président de l'Institut biblique du Québec, qui est l'Institut biblique, c'est pas parce qu'il y a le mot Québec que c'est réservé au Québec, hein. C'est l'Institut biblique au Québec, on va dire, mais c'est l'Institut biblique des Assemblées de Pentecôte, donc pour tout le Canada francophone. On a des étudiants du Manitoba, du nord de l'Ontario, et en fait les propriétaires, si je peux dire ça comme ça, de l'Institut biblique du Québec, c'est l'Est, c'est le district de l'Est de l'Ontario, le district de l'Ouest de l'Ontario, c'est le district du Québec, mais c'est aussi le district des Maritimes, qui est donc droit de regard sur ce que nous faisons à l'Institut biblique du Québec. Et nous sommes bénis d'avoir plusieurs personnes du Nouveau-Brunswick qui étudient avec l'Institut biblique du Québec. Et justement, j'étais avant-hier, hier, ce matin à Beresford pour enseigner pour l'Institut biblique du Québec. Mais ce soir, on est ici avec la Bible. Vous avez une Bible ? Et je vous invite à considérer un texte qu'on connaît bien. C'est Jean chapitre 11. L'histoire de quelqu'un qui s'appelle Lazare. Ça ne vous gêne pas si on va directement dans le texte ? J'aurais pu vous parler d'affaires en Afrique et tout, mais je ne suis pas très fort à raconter des histoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la Bible ici. Si vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons en Afrique, allez sur berceau.ca, berceau.ca, et vous pouvez vous inscrire à la lettre de nouvelles. Comme ça, vous saurez que la semaine prochaine, je pars en Israël, qu'en novembre, je vais au Togo, qu'après, je vais aller au Congo. Vous verrez tout ça et vous pourrez prier pour nous. Alors, Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuya, qui lui essuya les pieds avec les cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Ce n'est pas n'importe quelle requête. On comprend ici qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Marthe et Marie sont amies avec Jésus, et Lazare aussi. Et voilà qu'on envoie un message à Jésus en disant, Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Et je ne sais pas vous, mais des fois, quand on fait attention au texte, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et pour ma part, j'aime prendre le temps de lire le texte et de méditer le texte. Des fois, ça peut faire des années qu'on lit le même texte. Quelqu'un va dire, mais moi, monsieur, ça fait 40 ans que je lis la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à découvrir. Et il y a encore des trésors, il y a encore des pépites. Quand je suis sorti de l'école biblique, il y a longtemps, j'avais l'impression de tout savoir. Je commençais à prêcher, ma femme disait, on n'a rien compris. Moi-même, je n'étais pas sûr de comprendre ce que je disais. Mais plus j'apprends, plus j'étudie, et plus je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. J'étais en Grèce il n'y a pas longtemps avec Pierre et Marielle Paradis, si vous les connaissez. Et c'était pour un séminaire, puis on a fait un voyage sur les traces de l'apôtre Paul dans des petites villes de Grèce. Vous connaissez peut-être Thessalonique, Corinthe, Éphèse, bon ça en Turquie maintenant. Vous voyez, c'est des places comme ça qu'on retrouve dans notre Bible et c'était intéressant de visiter les sites archéologiques là-bas. Et je me suis acheté un t-shirt écrit en grec, parce que bon, je donne des cours de grec, j'enseigne le grec au doctorat aussi à Lomé, et je me suis acheté un t-shirt en grec, je me suis dit ça va faire travailler les étudiants. Et c'est aussi parce que j'aime bien cette phrase, c'est une phrase d'un philosophe, c'est une phrase de Platon. Si vous connaissez Platon, bon, je ne vais pas vous dire la phrase en grec, à moins que vous y teniez. Non, on va y aller directement en français. Platon disait, je sais une chose, je sais que je ne sais rien. Et ça, c'est sa philosophie, et je crois que c'est un peu ma philosophie. Et on se rend compte que plus on étudie, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Celui qui croit tout savoir, c'est qu'il n'a pas appris grand-chose. Mais plus on apprend, plus on se rend compte que, waouh, c'est riche. Et plus on lit la Bible, plus on la médite, plus on la découvre, plus on reçoit de la Bible, et plus on se dit, il y a tellement de choses que je n'ai pas encore saisies, il y a tellement de trésors. Quand quelqu'un me dit, je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà dit ça, moi la Bible je la connais par cœur. Waouh, ils sont forts, hein ? La Bible je la connais par cœur. Quand bien même on serait capable de réciter la Bible en entier, parce que ça veut dire qu'on a tout compris. L'apôtre Paul, il a compris beaucoup de choses. Et même des fois, il écrit des choses compliquées. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit des fois, le frère Paul, il écrit des choses tellement compliquées qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Non, vous avez lu ça dans l'épître de Pierre? Et il dit, il y en a même qui ne comprennent pas et qui déforment ce que Paul a écrit. Je me dis, si Pierre a du mal à comprendre, nous aussi, des fois, on a du mal à comprendre. Mais encore un cran au-dessus, Paul lui-même, des fois, dit, c'est un mystère. Paul dit, là, je n'ai pas compris. Et ça reste pour moi du domaine du mystère, mysterion. Pour moi, c'est un mystère. Alors, s'il y a des choses qui sont un mystère pour Paul, laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup, c'est encore un mystère pour moi. Et on a le droit de ne pas tout savoir. Et de faire preuve d'humilité et de dire, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais quand on lit un texte, et là je lisais Jean chapitre 11, et je me suis rendu compte qu'il y a un thème qui revient souvent, et que ça fait partie d'un fil conducteur dans cette histoire-là. Comme si Jean anticipe la question que le lecteur va se poser. La question que vous êtes censé vous poser en lisant ce texte. Et si vous ne vous êtes pas posé cette question en lisant ce texte, c'est que vous n'avez pas vu les signaux et vous êtes passé à côté. Alors on va prendre le temps de regarder les repères, les signaux, les indices qui sont là pour nous amener à se poser cette question. Est-ce que Jésus aime vraiment Lazare? Vous n'êtes jamais posé cette question? On vient dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et quand on lit l'histoire, on se dit, est-ce qu'il l'aime vraiment? Vous êtes jamais posé cette question? Alors on va se la poser ce soir, parce que le texte nous invite à nous poser cette question. Comprenez que ce n'est pas moi qui ai envie de poser une question comme ça, mais c'est que je vois dans le texte des indices. Parce que au verset 6, je vais lire un petit peu dans le désordre, hein, et puis après on remettra les choses dans l'ordre. Jean 11, 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore là, dans le lieu où il était. On vient lui dire, Jésus, celui que tu aimes est malade. Il est sur le point de mourir, viens vite. Et Jésus reste 2 jours encore dans le lieu où il est. Est-ce que Jésus l'aime tant que ça, ce Lazare? Quelqu'un que vous aimez, on vous dit, il est à l'hôpital, viens vite. Oh, j'irai la semaine prochaine. Il est en train de mourir, viens vite. Et Jésus reste encore 2 jours dans le lieu où il était. Et évidemment, c'est une question piège, hein, vous l'avez compris, mais c'est le texte qui nous pousse à nous poser cette question. Jésus aimait-il Lazare? Verset 20, Jean 11, 20, donc on vient beaucoup plus tard. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle va au devant de lui et Marie se tenait assise à la maison. Et voilà ce que Marthe dit à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » La première chose qu'elle dit à Jésus, c'est un reproche. Ça vous arrive de faire des reproches à Jésus? On va se parler vrai? Vous dites, non, non, moi je ne fais pas de reproches à Jésus, moi. Marie, ici, Jésus est à peine arrivé, elle ne lui dit pas, on est content que tu sois là. Aucune salutation. Elle dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi t'es pas venu plus tôt? Si tu étais venu plus tôt, notre frère ne serait pas mort. Verset 32. Lorsque Marie, donc ça c'est Marthe qui reproche à Jésus, maintenant c'est au tour de Marie. Lorsque Marie arrive là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tombe à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe fait des reproches à Jésus, Marie fait des reproches à Jésus. Jésus, pourquoi tu ne l'as pas guéri? Jésus, pourquoi tu n'es pas venu lui imposer les mains afin qu'il soit guéri de sa maladie? Ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation frustrante. Vous avez prié et Jésus n'est pas venu. Vous lui avez demandé de venir et il n'est pas venu. Ou il est venu plus tard et vous dites c'est trop tard. Et Marthe et Marie ici disent, si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Et pas seulement Marthe et Marie, c'est tout le monde qui se disait ça. Regardez au verset 37, Jean 11, 37. Cette fois-ci, c'est la foule. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Vous voyez tous les indices qui sont dans ce texte? Comment ça, Jésus n'a rien fait? On dit que c'est son ami et il l'a laissé mourir. On dit que c'est son ami, est-ce qu'il l'aime vraiment? Et voilà que quand on va le chercher, il tarde à venir, il reste 2 jours à rien faire là où il est, on ne sait pas trop ce qu'il faisait en tout cas, et il arrive trop tard. Et on fait les reproches à Jésus, si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Marthe fait le reproche, Marie fait le reproche, et la foule se dit les uns aux autres, comment ça, Jésus, il est capable de guérir les yeux d'un aveugle qui ne connaît pas, et lui, qui est son ami, il n'a rien fait. On fait des reproches à Jésus. Notez bien que, à peu près, dans 100% des cas, où on fait des reproches à Dieu, on a tort. Non? c'est facile de faire des reproches. Mais en plus, si on fait attention, si on réfléchit bien, et puis je vais vous le démontrer, Marthe et Marie ont tort de faire des reproches à Jésus, parce que le reproche qu'elles sont en train de faire à Jésus est faux. On reproche quelque chose de faux à Jésus. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été ici, notre frère... Bon, Jésus est à une journée de marche. Je veux dire, comment on sait ça? Il suffit de lire un petit peu dans Jean chapitre 10 et on voit où est Jésus. On sait que Marthe et Marie et Lazare, ils habitent à Béthanie. Hein, ça, c'est une petite ville qui est en dessous de Jérusalem. On sait que Jésus est à peu près à une journée de marche. Lazare va mal. On se rend compte qu'il est sur le point de mourir. Alors on dit, on va envoyer quelqu'un chercher Jésus, parce que Jésus, lui, il pourra faire quelque chose pour Lazare, c'est son ami. Alors on envoie un messager. Il met combien de temps pour arriver vers Jésus? Une journée. Pour l'instant, tout va bien? Bon. Une journée, jour 1. Jésus décide de rester 2 jours. C'est ça? On l'a lu ensemble? Il ne bouge pas pendant 2 jours. Jour 2, jour 3. Ensuite, il dit à ses disciples, allons, on va aller à Béthanie et on va réveiller Lazare. Et les disciples disent, ah, ben, s'il dort, tout va bien. Et Jésus dit, non, il est mort. Bon, parce qu'en grec, réveiller et ressusciter, c'est le même verbe. Hein, parce qu'il y a un euphémisme ici. Le sommeil, ça parle de la mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul, à un moment, dit au sujet de ceux qui dorment. Il fait référence à ceux qui sont morts ici. En tout cas, le 4e jour, enfin, Jésus dit, on va à Béthanie. Ça leur met 1 jour. Donc, ils arrivent le jour 4. On est d'accord? Et quand ils arrivent le jour 4, Lazare est mort depuis combien de temps? 4 jours. C'est ce que dit le texte. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'affirment Marthe et Marie, si tu étais venu plus tôt, notre frère ne serait pas mort. Si Jésus était venu tout de suite, dès qu'on lui annonce la nouvelle, il serait arrivé le jour 2 et il aurait trouvé Lazare mort depuis 2 jours. Mais comme il est resté 2 jours de plus, quand il arrive, il trouve Lazare mort depuis 4 jours. Donc en fait, ce que disent Marthe et Marie, c'est faux. Si tu étais venu plus tôt, notre frère ne serait pas mort. S'il était venu plus tôt, Lazare était mort quand même. Le reproche est faux. Le reproche est basé sur une mauvaise parole. Je disais à l'église de Bréfort ce matin, on faisait référence à la tempête. Les disciples sont dans un bateau, il y a une tempête. Et ils font des reproches à Jésus parce que Jésus est en train de dormir au milieu d'une tempête. Et le reproche qu'ils font à Jésus, c'est « Pourquoi tu ne t'inquiètes pas ?» Est-ce qu'on reproche à Dieu de ne pas s'inquiéter? Comment tu n'as pas peur? Comment tu ne t'inquiètes pas? Comment ça ne te fait pas peur ce qui est en train de se passer? Ben, c'est Dieu. Pourquoi il devrait s'inquiéter? Et en plus, il commence à prophétiser faux. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous savez, ce genre de phrase, ça va mal finir. On va tous mourir. C'est ce que les disciples disent. Hein? On va tous mourir. Ça va mal finir. Et en plus, tu dors. Tu t'inquiètes même pas. Pourquoi Jésus devrait s'inquiéter? Jésus avait dit aux disciples, on va sur l'autre bord. Il n'a pas dit, on va dans la barque pour mourir au milieu du lac. Il dit, on va sur l'autre bord et on arrivera sur l'autre bord. Ah oui, mais il y a une tempête. Ah ben oui, il y a une tempête. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mourir au milieu du lac. Mais les disciples, à cause de leur peur, commencent à avoir une interprétation erronée. On va tous mourir. Et parce que ça commence à résonner faux, on fait des reproches, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et c'est la même chose avec Marthe et Marie, parce que leur raisonnement est faux, parce que ce n'est pas basé sur la vérité, on commence à faire des reproches à Jésus. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Si tu étais venu plus tôt, notre frère ne serait pas mort. Mais c'est vrai pour nous aujourd'hui, je ne connais pas votre situation. Mais quelle que soit la situation, des fois, on a notre propre lecture. En disant, pourquoi il n'a pas répondu tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme moi je pensais qu'il était le mieux de faire? Est-ce que Dieu peut penser que votre plan n'est pas le meilleur et qu'il ait un meilleur plan que le vôtre? Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Ou on lui fait le reproche de ne pas avoir choisi notre plan? Mais le plan de Marthe et Marie, Lazare était mort quand même. Et ça ne marchait pas. Et évidemment, le lecteur peut se poser la question, est-ce que Jésus aimait Lazare? En tout cas, tout le monde se pose la question. Marthe et Marie disent, mais si tu l'aimais vraiment, tu serais venu plus tôt. Lui, il délivre les yeux, il délivre l'aveugle, mais son ami, il ne le guérit pas. Je reviens au verset 4, Jean 11, 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et voyez-vous, Jésus sait ce qui se passe. Il est au contrôle. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, même s'il sait que Lazare est mort. Puisqu'il dit, on va aller le ressusciter. Mais il dit, elle est pour la gloire de Dieu. Et notez bien le verset 5 qui, moi, me met la puce à l'oreille. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et pourquoi Jean prend la peine d'écrire ce verset au milieu de cette histoire? Pour être sûr qu'on ait la bonne réponse à la question, est-ce que Jésus aime Lazare? Et il nous dit, attention, tout pousse à nous poser cette question, est-ce que Jésus aime vraiment Lazare? Et il le met noir sur blanc pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo et d'équivoque. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas venu tout de suite qu'il ne l'aimait pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu tout de suite qu'il ne l'aimait pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu tout de suite à la prière que vous faites qu'il ne vous aime pas. Mais il dit, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée, que le Fils de Dieu soit glorifié par cette situation. Comprenez que dans le monde juif, il y avait cette croyance que l'âme restait dans le corps 3 jours après la mort avant d'aller rejoindre Dieu. Alors, quand on ressuscite la fille de Jaïrus, quand Jésus va ressusciter le fils de cette veuve, de Naïm, bon, c'est déjà miraculeux de ressusciter un mort ici, c'est déjà fort. Mais quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, dans la mentalité juive, là c'est trop tard. On a dépassé la limite et on va y revenir plus tard. Or, Jésus aimait. Et notez bien que là, il y a 2 verbes grecs pour dire aimer. Il y a agapao, vous avez entendu parler, on fait une agape. Ça vient du verbe agapao, verbe aimer. Dieu a tant aimé, agapao. Agapao, c'est un amour qui est fort, qui est solide, qui ne dépend d'aucune circonstance, qui ne transige pas, qui est inconditionnel. Jésus aimait, agapao. Et dans Jean 11, 11, il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, là c'est le verbe phileo. C'est Lazare, celui que nous aimons comme un ami. Et ton ami est en train de mourir et Jésus dit, c'est mon ami. Il dort, mais je vais le réveiller. Et il n'y a pas de quiproquo, c'est vraiment son ami. Et quand il est dit au verset 35, Jésus pleura. Je ne rentre pas sur les détails de ce verset, mais c'est quoi la réaction de la foule qui se disait, mais lui qui a guéri l'aveugle, pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri son ami? Quand ils voient Jésus pleurer, voilà leur réaction, verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Vous voyez que cette question, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il ne l'aime pas, il l'aime vraiment, elle est un peu partout dans le texte. Quand Jésus pleure devant le tombeau, la réaction c'est « voyez comme il l'aimait ». Finalement, il l'aime vraiment. Agapao, phileo. Ces deux verbes-là, on les retrouve dans Jean 21, à la fin de l'évangile de Jean. Vous savez, c'est sur la plage. Jésus est ressuscité et il pose la question à Pierre. Simon, dans Jean 21:15, il pose la question à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bon, sauf que là, on le voit mal dans notre traduction en français et dans la plupart des traductions en français. Et même, j'ai vérifié la traduction en anglais, j'ai dû aller dans une traduction de 1847 pour trouver quelque chose de différent. En français, il va falloir aller dans la Nouvelle Bible Seconde. Je ne sais pas si vous connaissez la Nouvelle Bible Seconde. C'est une traduction un peu plus récente, juste un peu avant la Seconde 21. Et là, on voit que ce n'est pas le même verbe qui est utilisé en grec. Bon, vous parlez anglais à peu près. Jésus dit « Do you love me ?» Pierre répond, I like you. Je ne sais pas, moi, si ma femme me demande, do you love me, puis que je lui réponds, je t'aime bien, I like you, elle ne va pas aimer ça. Hein? Non? Et Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes, agapao, plus que les autres, puisque tu dis que toi, tu fais plus que les autres? Et Pierre répond en toute honnêteté, Seigneur, mon amour n'est pas aussi grand. Mon amour n'est pas aussi haut. Mon amour, il est comme ça. Je t'aime comme un ami. Je t'aime d'un amour qui n'est pas aussi fort que l'amour que tu as pour moi. Seigneur, je t'aime. Je t'aime comme un ami. Tu es mon ami. Je t'apprécie. Jésus dit une deuxième fois, verset 15, Jean 21:15, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? On est au verset 16, pardon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Toujours les mêmes verbes ici. Est-ce que tu m'aimes agapao? Est-ce que tu m'aimes d'un amour grand? Et Pierre répond, mon amour, il est là. Mais la troisième fois, Jésus dit, es-tu mon ami? Jésus change de verbe. Il lui avait dit, m'aimes-tu comme ça? Il répond, je t'aime comme ça. M'aimes-tu comme ça? Je t'aime comme ça. Et la troisième fois, il dit, est-ce que tu m'aimes comme ça? Est-ce que tu m'aimes comme un ami? Do you like me? Et là, la phrase prend tout un autre sens. Quand Pierre est attristé de ce que Jésus lui a dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami ?» Ce n'est pas seulement que Pierre est attristé que Jésus ait posé la question trois fois. C'est que Pierre est aussi attristé que pour la troisième fois, Jésus a changé de verbe. En disant, « Pierre, je te demande si ton amour est grand, et toi tu me dis que tu es mon ami. Je te demande si tu m'aimes de cet amour-là, et toi tu me dis que tu es mon ami. » Et la troisième fois, il dit, est-ce que tu es vraiment mon ami? Est-ce que l'amour que tu dis que tu as pour moi, tu l'as vraiment? Même si tu reconnais qu'il n'est pas en haut. Et évidemment, Pierre est attristé. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, toi tu le sais. Tu sais même mieux que moi la grandeur de l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. Si le Seigneur nous demande comment nous l'aimons aujourd'hui, est-ce qu'on va lui répondre que l'amour que nous avons pour lui, il est extraordinaire? Non? Un peu comme les couples là, qui disent, ou des fois c'est des parents avec des enfants, c'est cute, hein? Je t'aime. Non, je t'aime plus que tu m'aimes, je t'aime encore plus. Non, vous avez déjà vu ce genre de situation? Mais quand Dieu nous dit « je t'aime », est-ce qu'on nous, on lui répond « non, non, moi je t'aime plus que toi tu m'aimes ». Ça va être difficile, là. Et quand Dieu prouve son amour pour nous, quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu montre l'amour qu'il a pour nous et qu'il nous demande « êtes-vous, vous m'aimez comment ?» Est-ce que notre amour, il est haut comme ça? Où est-ce qu'il est comme ça? Dans la question de Lazare, on est là en train de se dire, est-ce qu'il l'aime vraiment? Et vous avez remarqué que souvent, quand il y a un problème, on se pose, on remet en question l'amour. Il y a un problème, est-ce qu'il l'aime vraiment? Quand Jésus meurt sur la croix, dans Matthieu 27, 42, ou même 43. Matthieu 27, 43. Voilà ce que les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens qui se moquent de lui vont dire dans Matthieu 27, 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En d'autres termes, si Dieu l'aime, pourquoi il est crucifié? Si Dieu l'aime, pourquoi il ne le délivre pas? Si Dieu l'aime, pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Et souvent, quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par un temps d'épreuve, on peut avoir cette tendance, parce que le diable, évidemment, nous pousse dans ce piège, de dire, est-ce que Dieu t'aime vraiment pour te laisser dans cette situation? Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Regarde, tu cries, il ne vient pas. Tu as envoyé un messager dire, Jésus, ton ami Lazare, a besoin de toi et il ne vient pas. Et on remet en question, est-ce qu'il l'aime vraiment? Ce n'est pas parce que vous passez par un moment difficile que Dieu ne vous aime pas. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas parce qu'il y a une tempête que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'oppression, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a de l'opposition que Dieu ne nous aime pas. Or que le diable ne nous aime pas, ça c'est sûr, hein. Qu'il y a un lion rugissant autour de nous, ça c'est sûr. Le diable ne nous aime pas, on est d'accord là-dessus. Mais remettez jamais en question l'amour de Dieu pour vous. Vous savez, les enfants qui ne comprennent pas. Les enfants qui ne comprennent pas. À un moment donné, quand ma fille était toute petite, elle voyait le liquide vaisselle qui avait une belle couleur. Elle voulait boire ça. Les parents disent, non, non, tu ne bois pas ça. C'est quoi la réaction d'un enfant? Mes parents m'aiment pas, ils ne veulent pas que je boive le beau liquide. Bon, elle a fini par en boire, quand elle suçait son pouce, ça faisait des bulles. Bon, heureusement, elle n'en a pas bu trop, il n'y a pas eu besoin d'aller au centre antipoison. Mais des fois, quand on ne comprend pas, on peut être frustré de ce que nos parents ne nous donnent pas, ce que nous, nous croyons être bon, alors qu'ils le font pour notre bien, parce qu'eux, ils savent que ce n'est pas bon pour nous. Et des fois, on peut avoir l'impression de dire, mais pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Il ne m'aime pas. C'est peut-être justement parce qu'il nous aime qu'il n'a pas répondu de la manière dont vous vous attendez. Parce qu'il veut faire quelque chose de différent que ce que nous en a pensé. Il nous aime d'un amour vrai, d'un amour fort, d'un amour inconditionnel. Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, dit l'apôtre Paul aux Romains, Christ est mort pour nous. Jean va dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une preuve d'amour plus grande que cela? Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui remettre en question l'amour de Dieu en disant, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Je pense qu'il faut s'interdire de poser cette question. Et même si on ne comprend pas, de se dire, il m'aime. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est injuste. J'ai l'impression que ça devrait marcher autrement. Mais je sais qu'il m'aime. Et je vais avoir confiance dans son amour. 1 Jean 4, 49, Jean peut dire, nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors maintenant, revenons à notre histoire de Lazare. Parce que, en tenant compte de cette histoire-là, ça vient tout changer. Et ça vient peut-être ce soir nous amener à lire le texte sous un angle différent ou avec une approche nouvelle. Jean 11, 33. Quand Jésus voit pleurer Marie, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit dans son esprit, il est tout ému et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils répondirent, « Viens et vois. » Où l'avez-vous mis ? Cette question, « Où est-il ?» me rappelle une question que l'on trouve dans la Genèse. Adam et Ève ont péché et ils se cachent en disant, « Dieu ne nous trouvera pas. » C'est possible, ça, de se cacher que Dieu ne nous trouve pas ? Mais notez bien que dans Genèse 3, 9, l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Comprenez que cette question-là, elle doit bien nous faire réfléchir. Si Dieu pose la question, « Où es-tu, Adam ?» Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas où il est. Évidemment que Dieu sait où est Adam. Est-ce que Adam pourrait se cacher et que Dieu dise, « Ah, il a disparu, je ne le vois plus. Où est-ce qu'il est passé ? Où es-tu, Adam ?» Non, Dieu sait exactement où est Adam. Mais pourquoi est-ce qu'il pose la question, « Où es-tu ?» Pourquoi est-ce qu'il l'appelle en disant, « Où es-tu ?» Pour donner l'opportunité à Adam de confesser son péché et de dire, « Viens et vois. Seigneur, je suis là et je suis nu parce que j'ai péché. » Et ici, c'est un peu la même chose. Quand Jésus demande à Marthe et à Marie, « Où l'avez-vous mis ?» Elles répondent, « Seigneur, viens et vois. » Et elles viennent quelque part avec repentance, en tout cas confesser l'état dans lequel elles sont. Voilà où on est. Et c'est important d'être honnête. Et là, elles sont très honnêtes. Elles disent, voilà, Seigneur, où on est. Et c'est quoi l'état dans lequel elles sont ? Elles ont mis une pierre sur le tombeau. Comment est-ce qu'on sait ça ? Parce que Jésus dit, ôtez la pierre. Mais c'est quoi cette pierre ? Cette pierre montre qu'elles ne croyaient plus. Elles ne se sont pas dit, on va laisser Lazare sur le lit et quand Jésus arrivera, il pourra le ressusciter. Elles ont mis une pierre pour dire, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Plus rien ne peut arriver. Elles ont scellé. Elles ont décidé. Elles ont confessé. Elles ont attesté. Maintenant, c'est trop tard. Il n'arrivera plus rien. Mais ce n'est pas à Marthe et ce n'est pas à Marie de dire que c'est fini. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, on va défaire ce que vous avez fait. Vous avez mis la pierre en disant, c'est terminé, il n'arrivera plus rien, il ne sortira plus jamais de ce tombeau. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Et j'aimerais avoir une application pour nous aujourd'hui, en disant, peut-être que le Seigneur vous a fait une promesse. Vous avez eu un rêve, vous avez eu un songe, vous avez une promesse. Vous avez reçu une parole de Dieu. Mais ça a tardé. Et vous dites, mais pourquoi le Seigneur ne m'a pas donné ce qu'il m'avait promis ? Et on peut être dans un mode de frustration, voire même d'amertume et faire des reproches à Dieu. Seigneur, tu m'avais promis et il n'y a rien. Et arriver à un tel point qu'on met une pierre et qu'on dit de toute façon maintenant c'est fini. Vous savez, même Abraham et Sarah, il y avait une promesse, hein ? Ça a mis du temps à venir cette promesse. Et ils auraient pu dire, mais là, mais maintenant, c'est trop tard. Sarah a passé l'âge d'avoir des enfants. Elle est ménopausée, comment est-ce qu'elle pourra avoir des enfants ? C'est ça ce que dit le texte. Hein ? Mais justement, l'histoire nous montre que même quand c'est impossible, c'est possible. Parce que, souvenez-vous, Jésus est resté 2 jours de plus. Parce qu'en arrivant le 4e jour, on est dans le mode où, mais là, dans la conception juive, 4 jours, c'est fini. Son âme n'est plus là. Ressusciter quelqu'un dans les 3 jours, ça peut marcher encore. Son âme est toujours à côté, pas loin là. Et il peut reprendre le souffle de vie. Mais au bout de 4 jours, d'ailleurs, c'est leur réaction. Il sent déjà. Il sent déjà. Jésus, là, on sait que tu ressuscites des morts. On sait que tu l'as fait pour, dans tel cas, ils connaissent les histoires. Ils ont entendu parler de ces résurrections que Jésus a accomplies, hein, et qui sont nommées dans l'Évangile. Mais ils disent, mais là, c'est trop tard. Ça fait plus de 4 jours. Et tout le monde sait que, après 4 jours, il n'y a plus de résurrection. On a mis la pierre et on a dit c'est fini. Et Jésus dit, c'est pas à toi de dire que c'est fini. Ôte la pierre. Parce que la gloire de Dieu va être manifestée. Et on comprend qu'un mort qui sent déjà, qui est au tombeau depuis 4 jours, qui sort du tombeau, waouh, ça... On comprend qu'il nous est dit un peu plus tard que la moitié de la ville ou plus de la moitié de la ville de Jérusalem est venue pour voir ce qui se passe. Hein. Ça a fait les manchettes des journaux, c'était les télévisions en parlaient constamment et tout le monde est venu voir ce qui se passe ici. Et il sentait déjà, il était mort depuis 4 jours. Mais tant que la pierre est là, il ne peut rien se passer. Tant qu'on a barré la porte, le miracle ne peut pas prendre place. Tant que la pierre ferme le tombeau, le mort ne peut pas sortir. Et ce n'est pas que Jésus ne peut pas le ressusciter. C'est que Marthe et Marie ont fermé. Et Jésus dit, première chose à faire, ôter la pierre. Et peut-être que ce soir, plusieurs ont besoin d'ôter la pierre que vous avez mise. Vous avez déjà scellé. Vous aviez déjà vous-même décidé que c'était fini, qu'il fallait arrêter d'espérer, que c'était trop tard, qu'il ne pouvait plus rien se passer. Alors on met une pierre d'incrédulité. Ça veut dire quand même il sent déjà là. Oui, c'est sûr. Mais on met une pierre et on interdit le miracle d'avoir lieu. Et Jésus dit, ôte la pierre. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur veut dire à plusieurs, ôte la pierre. Ouvre une porte à la possibilité du miracle. Tant que la pierre est là, le miracle ne peut pas avoir lieu. Parce que c'est toi-même qui bloque le miracle. Et après, tu reproches à Jésus de rien faire. Mais ce n'est pas Jésus qui a mis la pierre, c'est Marthe et Marie. Elles auraient pu garder le mort sur le lit en disant « quand il reviendra, il pourra le ressusciter ». Mais elles ont mis une pierre en disant « c'est fini ». Et Jésus dit, donc je reviens dans Jean 11, 39, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « mais Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là ». Et verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et c'est justement ce que Jésus a annoncé à ses disciples, la gloire de Dieu va se manifester dans cette situation. Mais notez bien que Jésus dit à Marthe ici, ne t'ai-je pas dit ? Ça, c'est un reproche. Presque un reproche, non ? Je te l'ai déjà dit, et il faut que je te le rappelle parce que tu l'as oublié. Et le Seigneur nous a fait des promesses, nous a dit des choses. Mais des fois, on oublie ce qu'il nous a dit. Et il doit nous dire, mais je ne te l'ai pas déjà dit. Sois pas oublieux. Garde cette promesse. Ne t'ai-je pas dit ? Reviens à la parole que tu as reçue. Le diable, lui, est spécialiste pour mettre le doute. C'est une tactique qu'il a mis en pratique dans le jardin d'Éden. Et comme ça marche, et que ça continue à marcher, il continue à utiliser la même technique depuis des milliers d'années. Et cette technique, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est la parole qui dit à Ève, dans le jardin d'Éden, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mourrez pas ?» Et de la même manière aujourd'hui, Dieu a-t-il réellement dit que tu seras guéri ? Dieu a-t-il réellement dit que Lazare va s'en sortir ? Dieu a-t-il réellement dit, quand tu as reçu une parole de Dieu, ne t'ai-je pas dit ? Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Base ta foi sur sa parole. Ne t'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Jésus veut ressusciter ce que vous avez mis au tombeau. Peut-être ressusciter un rêve, ressusciter une promesse, ressusciter une parole. Ne dis pas, il sent déjà, c'est fini, c'est trop tard, c'est pourri, ça n'arrivera plus. Jésus dit, ôtez la pierre. Et c'est déjà un pas de foi que d'ôter la pierre. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec un mort qui sent déjà ? Non, ôte la pierre et ose croire qu'il peut se passer quelque chose. La pierre du découragement, la pierre de l'incrédulité, la pierre de la culpabilité. Quand Jésus dit « ôte la pierre », tu ôtes la pierre et tu te souviens, ne t'ai-je pas dit, tu te souviens de ce qu'il t'a dit. J'arrive à la conclusion et je vais dans Romains chapitre 8 pour la conclusion. Romains chapitre 8, verset 35. Je vous rappelle qu'on était sur ce thème, est-ce que Jésus aime vraiment Lazare ? Et dans Romains 8, 35, on a ici toute une déclaration, une doxologie, une grande déclaration. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous amener à douter qu'il nous aime ? Et l'apôtre Paul est sérieux quand il fait cette déclaration. Et il est passé par des choses peut-être un peu plus sérieuses, enfin en tout cas que moi je suis déjà passé. Je n'ai jamais été lapidé à la mort, je n'ai jamais été fouetté, mis des années en prison à cause de ma foi, naufrage, serpent qui le mord, toutes sortes de choses. Et il dit, ce n'est pas ça qui va m'amener à douter qu'il ne m'aime pas. Qui me séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et là, cette phrase prend un autre sens. Parce que je sais qu'il est celui qui m'a aimé, je peux être plus que vainqueur. Mais si je doute qu'il est celui qui m'a aimé, je vais passer à côté de ma victoire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes déjà vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'apôtre Paul continue, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir » ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous avons besoin d'avoir cette assurance ce soir. Il m'aime. Quoi qu'il arrive, même s'il y a tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée, toutes ces choses-là, il m'aime quand même. Je sais qu'il m'aime. Et parce que je sais qu'il m'aime, je peux avoir cette assurance, cette conviction, cette paix. Je suis plus que vainqueur. Mon Rédempteur se lèvera et il va régler la situation. Parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'il ne va pas m'abandonner, qu'il ne va pas me laisser dans une situation mauvaise. Parce qu'il m'aime, il prend soin de moi. Il est ce père qui prend soin de ses enfants. Il est ce berger qui va chercher la brebis qui est en danger, parce qu'il m'aime. Alors ce soir, ne doutons pas de l'amour de Dieu, mais qu'on puisse ressortir de ce lieu avec une conviction, avec une assurance, il m'aime. Et ensuite, ça c'est la première étape. Et ensuite, quand on sait qu'il nous aime, peut s'attendre à tout. Et quand il nous dit, ôte la pierre, il faut que ce soit lui qui le dise. Hein. Comprenez que Jésus n'a pas ressuscité tous les morts en Palestine. Mais là, il a dit, dans cette situation-là, il faut ôter la pierre. Et quand c'est lui qui parle et qui vous donne une parole, eh bien, il faut le croire. Même si ça paraît impossible, même si ça paraît fou, il m'aime, il dit d'ôter la pierre, et je veux laisser le Seigneur ressusciter la promesse qu'il m'a donnée, le rêve qu'il m'a donné, la prophétie qui était sur moi, que j'ai enterrée, que j'ai mis au tombeau, je veux laisser le Seigneur ressusciter ça et le voir s'accomplir dans ma vie. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir et nous voulons entendre ta voix. Nous voulons laisser ton esprit encore nous convaincre. Nous voulons laisser ta parole nous toucher. Et nous voulons venir avec repentance devant toi et dire, Seigneur, vois dans quel état nous sommes, vois où nous avons mis la parole que tu nous avais donnée, la promesse que tu nous avais donnée, comment nous l'avons enterrée, mis au tombeau. Seigneur, nous voulons dire, viens et vois, sonde nos cœurs. Nous voulons dire, Seigneur, ce soir, nous voulons avoir cette ferme assurance. Tu es celui qui nous aime d'un amour extraordinaire. Notre amour est bien faible, mais ton amour est fort, il est grand. Qui peut mesurer la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour? Et Seigneur, nous voulons entendre ta voix nous amener à croire ce soir encore que tout est possible à Dieu, qu'il n'y a rien d'impossible. Que tu es celui qui peut même agir quand ça paraît impossible. Même quand pour nous, ça semble trop tard, ça semble fini, il sent déjà, ça fait plus de 4 jours. Mais toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Et nous voulons croire et nous attendre à toi. Parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu fort. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et ce soir encore, tu es le Dieu qui nous aime. Tu es celui qui fait de grandes choses. Tu es celui vers qui nous tournons les regards. Tu es celui qui honore tes promesses. Tu es celui qui a dit. Et nous voulons nous souvenir que tu as dit. Ne t'ai-je pas dit? Nous nous souvenons ce soir de ce que tu nous as déjà dit. Et nous voulons mettre notre foi dans ta parole. Et nous savons que nous verrons ta gloire. Et que nous t'honorerons et te glorifierons dans les choses que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous t'acclamons, nous te célébrons et nous te glorifions ce soir encore. Amen.